Eh bien, bonjour. Merci d'être si nombreux à l'heure du repas. Bon appétit pour ceux qui mangent. Et maintenant, nous allons parler des nouveaux mondes sous-marins de la science-fiction. Avec moi, il y a Peter Watts, auteur de plusieurs romans, d'un jeu vidéo aussi, on ne le dit pas peut-être assez souvent, qui en France nous avait donné une sacrée claque avec son deuxième roman Vision aveugle, et a surtout été remarqué par la suite avec ce qui est une trilogie en France, mais qui ne l'était pas dans la publication d'origine de Starfish et ses suites. Il y a donc Stefano Benni, qui a plusieurs cordes à son arc, auteur, nouvelliste, journaliste, et qui récemment s'est aussi mis au théâtre, qui écrit des récits souvent échevelés, très fantaisistes, pas forcément de science-fiction. En France, on connaît surtout Terra, qui a eu déjà maintenant deux éditions. Le reste de son œuvre, vous le trouvez surtout chez Actes Sud. Et c'est le côté un peu poète et qui nous parle du monde d'aujourd'hui, de notre monde, et qui s'intéresse alors à la marge, si l'on veut, par rapport au monde sous-marin. Il y a quelque chose qui est récurrent dans son œuvre. Bon, c'est un petit peu toute la faune marine et sous-marine, et surtout Moby Dick, puisque c'est aussi une des pièces de théâtre où vous intervenez. Et puis après, Régis Autière, scénariste de bande dessinée, qui a repris, comme vous le savez, la bande dessinée de Kaito et Evatine, Aqua Blue. C'est le troisième album qui vient pile de sortir pour les Utopiales, je crois. On parlera aussi de ces univers-là. Pour le reste, il y a aussi quelques récits qui parlent plus d'aviation, de conquête de l'espace. Avec la conquête de l'espace, c'est en deux volumes. Voilà, d'accord. Parler de monde marin et de monde sous-marin, c'est se poser la question de ce qu'est un autre monde. On a tous en mémoire Jules Verne avec 20 000 lieues sous les mers, où le capitaine Nemo nous montrait pratiquement un autre monde, qui était le nôtre pourtant, mais où personne n'était allé avant. Il y a eu Xavier de Langlois avec l'île sous cloche. Et puis maintenant, nous en sommes à l'exploration d'autres mondes sous-marins, ou parfois même l'implantation de personnes dans le milieu sous-marin. Alors, je voulais déjà savoir comment l'océan, tout le côté marin, comment vous l'abordez dans votre œuvre? Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous avez envie de l'aborder? Stefano, oui.
C'est, pour moi, l'océan, c'est, dans la littérature, c'est la moitié des inspirations pour l'écrivain de fantasy. Et je préfère prendre l'océan dans le point de vue de la créature, pas dans le point de vue de la créature humaine. Alors, dans mon livre, j'ai inventé narrateurs qui sont des baleines, qui sont des langoustes, qui sont des poissons bathypélagiques, je sais, de la profondité, parce que je pense qu'il n'est pas seulement l'homme qui doit parler de la difficulté de le futur de la mer, mais ce sont tous les créatures vivantes et mystérieuses qui habitent dans les abysses. Et l'inspiration pour moi, c'était dans une île très magique qu'il y a en Italie, la Sardinia. Depuis il y a 40 ans que je vais en Sardinia. Il y a un grand patrimoine de légendes, des histoires. Alors j'écoute ces légendes, ces histoires. Et ils sont une continue source d'inspiration pour moi. Mais surtout, je veux défendre les intérêts des poissons.
D'accord. Régis?
Pour moi, l'océan, c'est... en tout cas, par rapport à Aqua Blue, c'est à la fois un milieu hostile pour l'être humain, Et en même temps, le milieu nourricier aussi, puisque c'est un peu de là d'où on vient tous. Et en tout cas, dans AquaBlue, dans le premier cycle d'AquaBlue, en fait, donc AquaBlue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une planète recouverte entièrement d'eau, à l'exception de quelques îlots qui surnagent un peu. Et il y a un peuple qui s'est installé sur ces îlots. Et on se rend compte à la fin du premier cycle qu'en fait ce peuple a une origine qui est sous-marine, où il y a un autre peuple qui vit sous la mer, et dans le nouveau cycle qu'on a lancé, on fait venir aussi, on présuppose que l'origine de l'homme en fait vient de cette peuplade aussi. Et donc l'océan, c'est à la fois un milieu qui est hostile pour l'être humain, puisqu'il peut pas, c'est comme dans l'espace, voilà, l'être humain ne peut pas survivre sous l'eau sans apport technologique. Et en même temps, c'est un peu le ventre de la mer, c'est de là d'où on vient, et puis on a besoin d'eau pour vivre. Et donc voilà, j'essaie de prendre tout ça en considération dans le développement de l'histoire.
Le premier tome, d'ailleurs, que tu as repris, c'était le titre Retour aux sources.
Retour aux sources, oui.
C'est pas difficile de reprendre une série alors qu'elle a déjà un succès, qu'elle est bien implantée ?
Oui et non. En fait, c'est pas plus difficile que n'importe quel autre projet de bande dessinée. Il y a une pression qui est supérieure, effectivement, du fait qu'il y a des fans de la série, des gens qui attendent quelque chose. Seulement, cette pression, en fait, on l'a pas ressentie au premier tome. C'est-à-dire que quand on s'est lancé sur l'écriture et le dessin du premier tome du nouveau cycle qu'on est en train de faire. René et moi, on a réagi en tant que lecteurs, c'est-à-dire qu'on était tous les deux lecteurs de la série. C'est une série qu'on avait adorée à ses débuts, puis en fait qu'on avait abandonnée comme beaucoup de séries quand on est lecteur. Voilà, on lit les premiers tomes, puis après on passe à autre chose parce qu'il y a tellement de sorties qu'on ne peut pas tout lire. Et moi, j'avais lu le premier cycle, donc un cycle de 5 tomes, et puis un deuxième cycle qui est un cycle de 2 tomes, mais qui ne se passe pas sur AquaBlue. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était cet univers marin, sous-marin. Et dès qu'on a quitté la planète AquaBlue, voilà, ça m'a un peu, je m'en suis un peu désintéressé. Or, tous les cycles suivants, enfin les 3 cycles suivants, se passaient sur AquaBlue. Et pour moi, tous les lecteurs en fait avaient un peu réagi comme moi et donc avaient laissé tomber la série. Et donc pour moi, c'était une série qui avait été un peu oubliée et puis voilà, qui était une série des années 80-90. Et donc je ne me suis pas posé de questions par rapport aux attentes du lectorat. Je me suis dit, le lectorat doit avoir les mêmes attentes que moi, et donc on va retourner sur AquaBlue. Et en fait, avec Renaud, on a réagi comme des gamins à qui on prêtait, enfin on offrait une boîte de jeux, genre Playmobil ou Lego, en disant voilà, vous avez un univers, vous avez des personnages, amusez-vous avec et faites-en ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'on a fait dans notre coin, et puis après on a vu à la sortie de l'album qu'effectivement on n'était pas les seuls lecteurs de AquaBlue et qu'il y en avait beaucoup d'autres qui attendaient derrière et heureusement qui ont accueilli l'album de façon assez favorable.
D'accord. Peter Watt, j'ai oublié de dire qu'il est aussi un spécialiste de la biologie marine. Et je n'ai pas présenté Séléné Véry, qui donc est journaliste et assurera les traductions, si nécessaire, avec Stefano Benny, et Daniel Tron, notre traducteur pour Peter Watts. Donc.
As you wait. No, I think it would be nice for them to hear you, really, and I should just after. You can ask them as you want.
Back and forth.
Yeah,
okay.
So they can hear you, that's more friendly.
Okay, as I. My inspiration was actually happened when I was quite young, maybe 7 or 8. Two things happened. When I was 7, I was introduced to a friend's tropical aquarium. And up to that point, I thought that aquariums were big buildings in which you went to see octopuses and grottos. And when he told me that he had an aquarium, I assumed he had this sort of a subterranean secret hideout full of octopuses and shark tanks, and it turned out to be a measly little 10-gallon tank full of guppies and swordtails. And rather than being disappointed, I sort of internalized that to everyone can have an aquarium. And that, in combination with, believe it or not, 20,000 Leagues Under the Sea, got me started. I did not read 20,000 Leagues Under the Sea at age 8, but I did plagiarize a radio play based on the Walt Disney movie. I listened to it on Sunday morning on our national CBC radio, and I scribbled it down in about 3 pages, and my parents did not call me out on my obvious plagiarism. And So I figured I could probably get away with it. And that basically informs the genesis both of me as a science fiction writer and me as a marine biologist. I basically spent most of my life getting degrees in marine biology. My first novel was set almost entirely under the sea in a hydrothermal rift vent. And that was inspired, oddly enough, not so much by my experience as a marine biologist, but as my experiences with a woman with whom I was briefly involved who I really could not figure out. And this became kind of a thought experiment where I tried to figure out what exactly was sort of running a simulation of the character that Lenny Clark was based on, to try and sort of imagine what might have been going on behind the facade. So the two of them actually came together pretty nicely, I thought. I was rather happy with the way that book turned out.
Donc en fait, bon, mon histoire avec la mer commence quand j'avais 7 ans et quand on m'a emmené en fait chez un ami qui avait un aquarium tropical. Évidemment, en tant qu'enfant de 7 ans, j'ai imaginé quelque chose qui était énorme avec des requins, un truc vraiment gigantesque. Et en fait, c'est avéré que c'était juste en fait un aquarium de peine 300 litres avec des petits poissons, avec des guppies, avec des choses toutes petites. Et en fait, ça n'a absolument pas déçu. Au contraire, il y a eu un espèce d'effet d'enthousiasme en disant mais en fait tout le monde peut avoir un aquarium de comme ça chez soi, ce qu'il a trouvé absolument extraordinaire. Et l'autre élément qui a tout fait, c'est 20 milieux sous les mers, qu'il avait absolument pas lu quand il avait 7-8 ans. Par contre, en fait, il avait entendu une dramatisation à la radio, en fait, qui était basée non pas sur le livre, mais sur la version de Walt Disney. Et en fait, c'est ces deux dont il a pris des notes et il a fait un plagiat, en fait, de la chose qu'il a lu à ses parents et qui ont faim, en fait, de ne pas reconnaître. Et ces deux éléments-là, en fait, sont à la genèse, en fait, de à la fois sa carrière d'auteur de SF, mais aussi de chercheur et d'étudiant puis chercheur en biologie marine. Et son premier roman, en fait, à deux du coup dont l'action se passe entièrement sous l'eau et pour plus exactement, et là c'est le terme précis scientifique qui va manquer, sous les cheminées en fait de chaleur qu'on a. Hein, c'est ça. Les fumeurs. Hein, c'est une espèce de source de chaleur comme ça qu'on a dans les failles assez profondes. Et c'est là que ça s'est placé, et notamment une autre chose qui a été très importante, c'est une fille avec laquelle il a passé relativement peu de temps à l'époque, qui s'appelait Lenny Clark, et qu'il n'a jamais réussi à comprendre du tout. Et c'est cette idée, en fait, qui a, en fait, c'est cette relation et cette idée d'aller chercher, de comprendre, en fait, ce qui se passait dans l'esprit de cette femme, qui lui a permis, en fait, d'écrire, en fait, le personnage principal de ce roman, en fait, comme une espèce d'expérience de pensée qui lui permettait à la fois, donc, effectivement, de mettre en scène ce milieu marin qui le fascinait, particulièrement dans ce milieu avec des formes de vie extrêmement complexes et difficiles à comprendre, et en même temps cette idée, voilà, de réussir à comprendre ce qui se passait dans l'esprit d'une femme. C'est tout.
Alors, en même temps, chez tous ces auteurs, on trouve énormément de créatures sous-marines. Alors, Stefano Benni, à sa manière un petit peu fantasque, parle beaucoup de baleines, de dauphins, de calmars. Il y a des sirènes, il y a des poissons-loups, des pieuvres à tête d'enfant, d'ailleurs, dans certains des récits. J'ai d'ailleurs vu un début de récit qui était intéressant, « Le sang sous la mer ». On peut lire le début. « À un mile de profondeur, dans l'océan Pacifique, dans la fosse de Buenas Hombras, un étrange rassemblement de baleines se déroulait. Un énorme cachalot de plus de 20 mètres faisait du surplace, en nageant. Au moins une vingtaine de jeunes baleinoptères femelles se tenaient en face de lui, en rang, par quatre. Quel était le mystère de cette bande atypique? Il n'y avait aucun mystère. C'était une école. Le cachalot était le professeur et les 20 baleinoptères les élèves. La leçon était donnée en ultrasons et s'intitulait « Les chefs-d'œuvre de la littérature cétacéenne ». Donc nous avons aussi une civilisation qui est déjà là, qui est déjà implantée, et qui n'a rien à voir avec l'humain. Et c'est ça qui était intéressant. Et on en parlera après avec Régis Sautière. C'est que lorsque l'humain vient sur Aqua Blue, ça ne se passe pas très bien, on le sait évidemment. Mais il y a aussi des genres de cétacés, quelque chose d'énorme qui vient s'en prendre à l'humain comme s'il avait gardé une mémoire de ça. Donc il y a comme un début de société aussi parmi tous ces animaux des fosses marines. Mais j'ai déjà posé la question à Stefano. Là.
Mais ça, dans le récit, il y a une inversion littéraire très facile, mais c'est le baleine qu'il dit quelque chose sur Moby Dick et sur le capitaine Ahab. Ce n'est pas plus le point de vue du capitaine Ahab qui déteste la baleine, mais ce sont les baleines qui détestent capitaine Ahab. Et j'ai fait ça en théâtre. Ils m'ont dit de choisir 3 récits pour le théâtre. Et j'ai choisi un auteur français, Jules Laforgue, avec l'Aquarium, et un auteur italien. Alors, l'Italie, c'est complètement dans la mer, circondée par la mer, mais il n'y a pas une littérature d'aventure sous la mer. Ça, c'est strange. Il y a des récits, et on peut dire les Malavoglia de Verga, mais il n'y a pas de grands livres d'aventure comme dans les Anglais et les Américains. Alors, j'ai choisi un récit qui s'appelle Le Colombre de Dino Buzzati, parce qu'il y a la peur de mer. Alors, en Italie, beaucoup, la Sardinia, il y a l'attraction et la répulsion pour la mer, parce que par la mer, il arrive le péril, il arrive l'invasion. Et la troisième, c'était Moby Dick, mais il n'a pas le temps de dire pourquoi j'aime Moby Dick, mais surtout, je l'aime parce que c'était un livre que quand il est apparu, il n'était pas complètement compris par la littérature, la critique américaine. C'est devenu un grand livre mythique, mais après beaucoup d'années, et Melville, pour toute la vie, il s'est porté dans le cœur la délusion, c'est quoi dire, la déception que Moby Dick ne s'était pas compris au moment de l'écriture. Après, il était bien
apprécié. Peut-être après le passage par le cinéma.
Je ne sais pas. Je pense qu'il était trop différent de Conrad, de Stevenson, de Londres. C'était métaphysique. Et alors, c'était très difficile, peut-être, pour les Américains, mais aussi pour l'Europe, de comprendre qu'il y avait dans la même... Le drame élisabéthien, Shakespeare, nous, et l'exploration de l'océan. C'était très difficile.
Régis, donc, à propos de ces animaux qui savent.
Dans Aqua Blue, il y en a relativement peu, en fait. Notamment sur le premier cycle, il y a effectivement les cétacés dont vous parliez, qui sont les Urukuru, qui sont des espèces de raimantas géantes, un mixte entre des raimantas et puis des grands mammifères marins type baleine. Et ces Urukuru, en fait, ont à la fois le statut donc de mammifères marins, mais surtout de divinité. C'est-à-dire que pour la peuplade qui habite à Aqua Blue avant l'arrivée des humains, déjà, on croit au départ qu'il y a seulement un Urukuru, donc c'est une espèce de poisson magique, ou de mammifère marin magique et gigantesque. C'est lui qui désigne notamment l'élu, donc le chef de la tribu qui va accueillir Nao, donc qui est l'humain qui arrive sur Aqua Blue. Et petit à petit, en fait, dans la suite du récit, on se rend compte qu'en fait, il y a c'est toute une espèce de mammifères de ce type qui existent sous l'eau et qu'ils sont manipulés par une espèce intelligente qui s'en sert pour communiquer avec l'espèce qui vit sur les îles. Et après, nous, dans le cycle qu'on est en train de développer, donc qui est le second cycle qui se passe sur Aqua Blue, c'est aussi pour ça qu'on l'avait appelé Retour aux sources. Là, on a envie de créer, entre guillemets, plein d'autres créatures marines, notamment des créatures marines qui sont dangereuses pour l'homme. Parce que jusqu'ici, sur Aqua Blue, on a vu que des créatures qui soit vivent en harmonie avec les peuplades intelligentes, soit sont c'est des poissons qui
oui, mais qui attaquent l'homme comme s'il était indésirable.
Et qui attaque l'homme, oui, dans le nouveau cycle. Oui. Mais qui attaque aussi d'autres poissons, c'est-à-dire que c'est des espèces de grands requins qui attaquent avant tout pour se nourrir. Et après, il y a un peu le même phénomène que dans Avatar, qui a été très inspiré par Aqua Blue, où on a une planète qui se révèle au bout du compte. Enfin, qui a une forme d'intelligence collective. D'accord. En fait, où on a des créatures marines qui vont se mettre du côté, enfin, qui vont combattre les humains parce qu'ils sentent que les humains sont en train de menacer l'écologie de leur planète.
Entendu. Alors, les créatures marines de Peter Watt sont assez étonnantes dans la mesure où elles paraissent réelles et crédibles. Je pense que certaines existent. D'autres sont manifestement inventés, mais avec un degré de réalisme qui est assez étonnant. J'aimerais savoir comment il a fait pour les inventer, pour les créer et les mettre en scène. Elles sont dangereuses et en même temps, elles sont très fragiles.
Ok, well, I assume you're asking about the macroscopic ones, not the microbial ones. And I did not really invent those. Those all exist. What I did was come up with a sort of a hand-wavy scientific explanation as to how they could become huge. Usually, mesopelagic fish, because of nutrient limitations, tend to be quite small. So they've got these huge teeth, and they've got massive distensible stomachs, and they can swallow prey, eight times their size. There are really weird reproductive strategies where the male is a parasite that's a 50th of the size of the female, and he bites onto the female, and the blood systems fuse. The male basically devolves into this sperm-producing accessory tail, and sometimes females have 50, 100 of these parasitic males bristling all over them, sometimes sticking onto the gulls. I mean, it's frequently said that in humanity, males think with their dicks. These things literally become unthinking dicks. They're fascinating, fascinating creatures. But even in terms of making them huge, I did not totally invent that. There was an oceanographer called William Beebe, after whom I named the station in Starfish, who invented essentially a giant hollowed-out ball bearing called a bathysphere in the 1930s, and he would drop down. And he went to his grave swearing that he saw a pair of dragonfish down there that were 7 feet long. This is a fish that's usually about this big. And so that got me thinking, if there actually is a seed of, assuming he wasn't hallucinating, assuming he wasn't just yanking our chains, assuming there was something down there, somehow it got big. How does it get big without any food down there? Well, you've got the hydrothermal rifts in which you have normally small creatures essentially becoming huge. You've got a gigantism occurring, sort of endemic to these rifts, because you have a very strong sulfur-based thermal ecology. So I basically just stuck those two things together. It is remarkable how unimaginative I really am. I think it's kind of a telling that most scientists who are science fiction writers are best advised to stay away from the area of their expertise, because we become dogmatic, we learn all these facts, we know so much about our field that we can't break out of the box, and every time we come up with a new idea, we immediately realize why it wouldn't work. And so I actually think to some extent that scientific ignorance is an essential prerequisite for writing really prescient, mind-breaking science fiction. And I could cite a whole bunch of examples, which I will not, because they have nothing to do with the undersea realm, but this is a case I have been making for years. Ignorance equals good science fiction.
Pardon. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que la question de Claude parle donc de ces créatures macroscopiques, non pas de sa faune microscopique, mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a pas vraiment inventé quoi que ce soit. La seule chose qu'il a fait, en fait, c'est de trouver une explication pseudo-scientifique pour expliquer pourquoi des créatures, effectivement, de très petite taille, en fait, de grande profondeur, s'étaient retrouvées à avoir grandi de la sorte. Parce qu'en fait, une des caractéristiques, en fait, des poissons de grande profondeur, c'est qu'elles ont évolué dans un milieu où la nourriture est très difficile, où il y a assez peu de nourriture et où il est très difficile de s'en procurer. Et donc, ils ont tendance à avoir des formes assez étranges, notamment en termes des yeux, des dents gigantesques, des capacités à manger en fait des choses beaucoup plus grosses ou petites qu'elles, ce qui leur donne cet aspect assez fantastique. Et l'autre chose qui est très très particulier avec ces espèces-là, c'est la manière dont elles se reproduisent, par notamment de poissons, en fait, de mâles qui font moins d'un cinquantième en fait de la taille de la femelle et qui se reproduisent par parasitisme, qui se collent en fait à différents endroits du corps de la femelle, qu'on peut voir. On peut voir des femelles en fait avec jusqu'à une cinquantaine en fait de mâles accrochés à elles, qui pendent des branchies, etc. Et en fait, on a tendance à dire que les hommes pensent avec leur bite. Et dans le cas de ces poissons, en fait, ils deviennent littéralement des pénis, pardon. Et qu'on a aussi des phénomènes assez étranges où vraiment ils se transforment en parasites, puisque quand ils s'accrochent en fait à la femelle, il y a une fusion des systèmes circulatoires, et donc ils ne deviennent effectivement plus que des parasites, en fait, des excroissances du corps de la femelle au moment où ils se reproduisent. Et que il est parti en fait de ça, de ces créatures totalement extraterrestres pour nous, et il les a croisées avec un autre fait qui est l'océanographe en fait William Beebe, qui donne son nom à la station dans Starfish et qui a inventé en fait le bathyscaphe dans les années 30. Et après une de ses premières plongées, il a juré qu'il avait vu des poissons dragons qui normalement font à peu près cette taille-là, qui faisaient à peu près 2 mètres de long. Et il l'a juré, et il s'est en fait parti de ces deux faits-là, en fait, de se dire mais si ça se trouve, il n'a absolument pas halluciné, vu qu'il disait qu'il les avait effectivement vus. Et donc eh bien, il a commencé à réfléchir sur, on part du principe qu'il a dit la vérité, que ces créatures qu'on connaît, qui sont donc de très petite taille, ont pu, pour une raison ou une autre, se développer, avoir développé un gigantisme endémique auprès, dans justement cet écosystème des fumerolles basé sur le soufre. Et c'est de là qu'il est parti. Et il ajoutait à la fin que finalement, quand il réfléchit, il a très très peu d'imagination. Et l'autre chose qu'il a ajouté, c'est que finalement, il en est arrivé à penser avec les années que l'ignorance scientifique était certainement le meilleur garant d'un récit de science-fiction de qualité, car à partir du moment où un auteur travaillait dans son domaine d'expertise, il avait tendance à écarter les idées qui finalement pouvaient être les meilleures pour un récit, sous le prétexte en fait qu'il voyait directement dans sa discipline pourquoi cette idée en fait n'est une idée que de fiction et ne pourrait pas être réaliste. Et que donc finalement, pour un auteur, il vaut mieux ignorer le domaine scientifique dont on parle pour effectivement écrire des récits de qualité.
C'est l'aîné.
Oui, on m'entend. Oui. Si je peux intervenir, je voulais dire que Stefano Benni a aussi dans Terre a un très fort imaginaire qui concerne la mer, l'océan. Et il y a des créatures très particulières qui sont des baleines spatiales, en fait. C'est des astéroïdes qu'un personnage, une espèce de capitaine... un espèce de capitaine un fou, en fait, essaye de capturer. Et il y a tout l'imaginaire vraiment de la chasse à la baleine.
J'allais y venir, je pourrais dire presque que Stefano Benni est un peu notre professeur Picard dans la littérature, c'est à savoir le savant de la verticalité, celui qui est allé le plus haut à son époque dans l'air et le plus bas au fond de l'océan avec son bathyscaphe. Et c'est vrai que dans les livres de Stefano Benni, alors plus particulièrement Terra, qui a été réédité en 2010 chez Mnemos, on trouve donc beaucoup de références marines, maritimes, alors qu'on est complètement dans l'espace. Mais je dirais que c'est presque le même terrain.
Ah oui, parce que c'est un acteur, un philosophe français que j'aime beaucoup, que c'est Gaston Bachelard. Il a parlé d'inférotropisme, je ne sais même pas le mot français, et uranotropisme. Et je pense que dans la fantasy, il n'y a pas seulement... toutes les choses qui vont en bas, il y a un haut. Alors, tu peux penser que le plus grand océan, c'est la galaxie, et que les aliens, les choses plus aliens que nous pouvons connaître, ils sont au fond de la mer. Cette année, en Sardaigne, il a trouvé un poisson qui n'existait pas en avant. C'était extraordinaire. Il ressemble un peu à un homme politique italien. Puis il a beaucoup de mains et de grands yeux. Et il n'y a pas un nom pour ces créatures. Et maintenant, c'est parti, pas de décoration scientifique. Et c'est la première fois que ce poisson il arrive à la notoriété. Alors, c'était comme un alien qui arrive de l'espace. Et un grand débat de philosophe. Mais à la fin du tout, ils ont découvert que c'était un calamar pourri.
Et ça, c'était... Alors, ça a été déjà dit par Régis, le milieu sous-marin, pour le coloniser, ben, risque de poser quelques problèmes. On est peut-être dans l'océan des origines, mais ce n'est pas non plus le milieu actuel de l'humain. On s'en est échappé. Et je pourrais presque lire le début de Starfish de Peter Watts qui résume très bien ces questions-là. Il commence très fort. L'abysse devrait vous clouer le bec. Le soleil n'a pas touché ses eaux depuis 1 million d'années. Les atmosphères s'y accumulent par centaines. Les fosses pourraient avaler 12 Everest sans le moindre euro. On dit que la vie elle-même a commencé au fond des océans. Possible. Sa naissance n'a pas dû être facile, à voir ce qu'il en reste. Des créatures monstrueuses, aux formes cauchemardesques, façonnées par la pression, l'absence de lumière et les famines chroniques. Même à cet endroit, l'intérieur de la coque, l'abysse vous pèse dessus comme la voûte d'une cathédrale. Ce n'est pas un endroit où on braille des conneries et futilités. Si tant est qu'on parle, on le fait sans élever la voix. Mais ces touristes-là semblent tout bonnement n'en avoir rien à foutre. Et donc, à partir du moment où on parle de s'implanter au fond des océans, comme l'a fait Peter Watts, d'aller aussi dans l'espace, à peu près le même milieu, c'est-à-dire qu'il nous est un petit peu étranger et que l'on a besoin de s'isoler de l'extérieur avec une coquille qu'on pourrait appeler fusée, ville sous globe, etc. On peut se demander quels sont les dangers qu'il faut affronter et quelles sont les raisons d'aller vivre là-bas, ailleurs. Qui veut répondre ? Régis ?
Alors, je vais répondre sur les dangers, après les raisons.
Sur les dangers.
Je vais laisser d'autres le faire. Les dangers, c'est vrai qu'il y a des dangers. Enfin, ce sont tous les deux des milieux hostiles. D'une part parce qu'on ne peut pas survivre comme ça sous l'eau ou dans l'espace, tout simplement parce qu'on ne peut pas respirer en tant qu'humain. On ne peut pas se nourrir non plus, à moins d'être isolé par un globe, réfugié dans une fusée ou un satellite. Et surtout, on ne peut pas communiquer non plus. C'est-à-dire que, si je me souviens bien, sur l'affiche d'Alien, il y avait une phrase qui disait « Dans l'espace, on nous entend pas crier ». C'est pareil sous l'eau. C'est pour ça aussi que voilà, le monde du silence, on appelle ça le monde du silence. Et voilà, donc il y a plein de points communs entre ces deux mondes qui font que voilà, l'homme, et en plus, bon, il y a aussi les histoires d'absence de pression atmosphérique quand on est dans l'espace, alors que quand on est sous l'eau, au contraire, on a la pression de l'eau qui fait que plus on va profondément sous l'eau et plus on a besoin d'une coquille épaisse et résistante pour nous permettre de survivre. Voilà, donc tout ça, ce sont des points communs entre ces deux mondes qui en font des milieux hostiles pour l'homme. Et pourtant, malgré tout, sous l'eau, même dans les grandes profondeurs, dans les abysses, il y a quand même des espèces vivantes qui arrivent comme ça à survivre. On parlait tout à l'heure grâce aux fumerolles, aux fumeurs qui permettent d'apporter du soufre, etc., nécessaire à la vie sous-marine, mais pas à la vie humaine. Dans l'espace, par contre, je ne sais pas s'il existe des organismes vivants qui peuvent survivre dans le vide absolu, c'est-à-dire loin du soleil, à la fois qui apporte la chaleur, qui apporte la lumière, loin de toute gravité, loin de toute forme d'atmosphère.
Je crois qu'il y a des auteurs comme Stephen Baxter qui y arrivent très bien.
C'est qu'il lui semble bien qu'il y a des formes de champignons en fait qui se développent sur l'extérieur des satellites. Some fungus that develops on the outside of satellites.
Yeah, no, there are. There are some things. There's a bacterium called Deinococcus radiolarens, which is also known as Conan the bacterium because it can basically laugh at the inside of a nuclear reactor. There's another kind of creature called a tardigrade, which is somewhat more sophisticated than a bacterium. The common name is water bear. It's a little invertebrate. He's got six legs, and he's got toes. You see them. They're very, very cute little things. And they live everywhere. And you could literally toss those things into interplanetary vacuum, and they just shrivel up and go dormant, and you can bring them back. They are almost impervious to cosmic radiation. It's an example of something called sloppy fitness, which is you make an adaptation for one particular type of environment, and just through coincidence, the adaptations that you have evolved to protect yourself in that environment happen to have other applications. In this particular case, these guys have learned to, they adapted not to live in nuclear reactors or in outer space, they adapted to endure conditions of extreme desiccation. And it turns out that a lot of the same adaptations that work for that also work for being in outer space. You had so much mutation going on in the Mir space station that there was actual fungus and mold growing on the outside of the hull. I am not at all convinced that life couldn't survive in outer space, because to some extent we've actually gone. I actually wrote a story a few years back about a Dyson sphere, a live, naturally evolved Dyson sphere, kind of a thin diaphanous veil of tissue around a star. So I think that's a really interesting prospect. I think that one of the differences between going out into space and going down in the ocean, and it disappoints me, is that it's almost become something you can commute to. We don't know almost anything. We know hardly anything about the bottom of the ocean. It is a profoundly unexplored area. But if we want to, it's not as though you have to set up a base down there. We have submarines that can basically fly like orcas. You can have something that can go down to a few thousand feet and come up. It's an afternoon. So most of the things that one would find oneself doing on the seabed can essentially be done by commuters who can come back and basically sit down and watch The Simpsons and snarf pork rinds every night, and then during the day they go down to the bottom of the ocean. You don't have that kind of accessibility in space. And I think it's kind of sad, because the thing that made original golden era space opera so exciting was the accessibility of space. You know, the Enterprise would hop from one star to the next in half an hour. You could cross the galaxy in as long as it would take the Vikings to discover North America. Space kind of flows past the viewports like wine, and that was what was exciting. You could go anywhere. And we can't do that in space yet. We kind of can. When you're talking about deep sea environments, but really the only undersea bases people seem to be building these days are decadent, luxurious hotels for like tourists. Most of the work can be done automatically. There's massive seabeds. I had to relocate the location of Starfish three separate times, because every time I thought, here's an unexplored area where nobody will have seen. You know, nobody can prove that there aren't giant fish down here. Somebody would send a probe down, or somebody would lay a telemetry net of seabed cameras and hook it up to the internet, or somebody would set up a bloody Starbucks. The ocean, we don't go there very much, but I think it's profoundly more accessible in principle. And though that seems to make space opera more exciting, it makes ocean opera less of a going concern, which kind of sucks, because I like ocean opera.
Thank you.
we'll keep the point. En fait, il y a pas mal donc d'exemples donc qu'il a mentionné d'êtres en fait qui se sont adaptés à des conditions assez étonnantes. On en trouve notamment à l'intérieur des réacteurs nucléaires, on en trouve dans les bassins de refroidissement, on a aussi des créatures... Donc des water bears, is that? Water bears?
Water bears, yes.
Water bears. Les tartigrades, en fait, hein, qui sont donc, sinon qu'on appelle des ours d'eau, en fait, qui sont assez mignons, qui ont six jambes, qui ont des petits orteils, et en fait, qui peuvent résister à en fait, des déplacements interstellaires, en fait. Ils se sèchent complètement, ils se déshydratent entièrement, ils se recroquevillent, en fait, et du coup, ils peuvent résister au vide. Et en fait, c'est ce qu'il appelle, en fait, de l'adaptation paresseuse. C'est un phénomène, en fait, qui vient d'un réflexe d'adaptation à un milieu hostile particulier, qui, en fait, va servir pour d'autres milieux. Donc, en fait, c'est en gros, c'est c'est l'équivalent de faire d'une pierre 8 coups, mais en termes d'adaptation. Et donc ces créatures qui peuvent résister donc à un dessèchement extrême, du coup peuvent effectivement vivre à l'extérieur dans le vide. Il y a eu le cas sur Myr où on a eu des moisissures et des champignons qui se sont développés à l'extérieur de la coque. Et il y a quelques années, à partir de cette idée-là, il avait écrit un récit avec une sphère de Dyson. Si vous avez vu l'anomone, vous connaissez, c'est cette idée en fait d'une sphère complète autour d'une étoile. Et l'idée, c'est de vivre. À la base, c'est un physicien qui a inventé ça pour résoudre le problème définitivement de la surpopulation humaine. Et donc l'idée, c'est de construire une gigantesque sphère en fait qui du coup exploite 100% de l'énergie donnée par une étoile. Et on vit en fait à l'intérieur de cette sphère, donc directement au-dessus de l'étoile. De mal de gènes forts, ou si vous, pour ceux qui ont pas de chance, qui ont vu Elysium cet été, on a l'anneau monde en fait, qui était cette idée-là hein, de Elysium. Vous imaginez en fait le principe, mais vous avez le soleil au milieu, vous avez une tranche en fait de sphère de Dyson. Et donc, il y a quelques années, il a écrit donc un récit avec une Dyson sphère en fait qui était organique, qui s'est développée en fait d'elle-même à partir de tissus vivants jusqu'à entourer toute une étoile. Et ce qu'il dit en fait sur lui, la manière dont il aborde la différence entre l'exploration de l'espace et l'exploration des fonds marins, quelque chose qui le déprime un petit peu, c'est le déséquilibre, hein, le fait qu'on connaisse finalement si peu aux fonds marins par rapport à l'espace proche, alors qu'objectivement on pourrait explorer l'ensemble des fonds marins, et ça commence à se faire par des gens qui vont au travail le matin, qui descendent en fait, qui envoient des sondes ou des bathyscaphes qui peuvent descendre dans la journée et remonter. Et malgré ça, donc, selon lui, il y a effectivement quelque chose qui est beaucoup plus accessible dans les fonds marins par rapport à l'espace. Et ce phénomène est à la fois pour lui quelque chose qui l'intéresse et qui le désole un peu, parce que ce qu'il explique, c'est que finalement dans le space opera, ce qui est extrêmement intéressant et ce qui rend la chose très, très excitante, c'est l'accessibilité. Le fait que quand on regarde un Star Trek ou autre, tout d'un coup, des planètes hyper lointaines deviennent accessibles le temps d'un voyage, et on sort de la galaxie en moins de temps qu'il en a fallu pour les Vikings pour découvrir le Groenland et l'Amérique. Et c'est ça qui fait effectivement l'intérêt ou l'excitation qu'on a à lire du space opera, et que on devrait avoir du coup de l'ocean opera qui se développe de la même manière. Il trouve ça finalement plus intéressant, et en même temps, le fait qu'on soit en train de découvrir les fonds marins et de l'exploiter, le désole. Il a dû changer 3 fois le lieu en fait où se situait Starfish, simplement parce qu'il l'avait placé à un endroit qui n'était pas encore cartographié, pas encore exploré, où il pouvait postuler que des créatures géantes s'étaient développées, et à chaque fois, il y avait quelqu'un pour envoyer une sonde, ou envoyer un tapis de télémètre directement relié à Internet, ou ouvrir un Starbucks pile poil dans la fosse marine où il avait décidé de situer son action. Donc il a dû le changer plusieurs fois à cause de ça. Et il est quand même relativement désolant qu'actuellement, les seuls projets qu'on ait qui soient des implantations permanentes sous l'eau soient de stupides hôtels pour touristes entièrement automatiques sans aucun intérêt pour la recherche.
Certes, alors ça pose justement la question, bon, on se l'était déjà posé, à savoir pourquoi aller là-bas, mais ça a été évoqué dans un débat précédent. C'est l'aspect qui n'est d'une part pas très facile, et de l'autre côté le côté pollution. Alors c'est vrai que lorsque Peter Watts décrit les personnes vivant au fond de l'eau, ça n'a rien d'engageant, ce n'est pas aussi sympathique que dans Star Wars. On peut donner un petit détail, cela sent la moisissure et le métal, ainsi que moins nettement le vomi et le désinfectant. Des systèmes de survie gargouillent sous le pont. Des écoutilles baies comme des gueules noires, compartiments de stockage, toilettes, cabine chambre, un métronome électronique bip non loin, des comptes d'un moniteur cardiaque. C'est sûr que cette manière de décrire les choses ne fait pas rêver, mais c'est celle à laquelle il faut s'attendre lorsqu'on va sous l'eau ou lorsque l'on va dans l'espace. Et il y a la question de la pollution, parce que pour le moment, le cinquième continent vient d'être trouvé, c'est le continent de plastique hein, dont on parle de plus en plus sous l'eau. Et le problème des déchets que l'on rejette dans l'espace se pose également. Alors là, je peux même aussi citer Stefano Benni. Pour arriver sur un autre monde à coloniser, à sa manière, il l'avait déjà bien noté, et c'est ce que disait Peter Watts, voyage charter, dipique, les yeux brillants, grande croisière, hôtels monumentaux. Oxygène, soleil, mer, dit le général. Oui, oui, mer, vague, planche à voile, cria Pic. Cascade, carte postale des cascades, restaurant panoramique, soleil, crèmes à bronzer. Nos enfants pourront jouer, faire la chasse aux escargots, poursuivre l'éléphant, courir, sauter, transpirer, acheter des boissons fraîches, tomber malade, aspirine, thermomètre. Nous sommes dans une société où la Terre n'est plus vraiment vivable, donc on cherche autre chose. Monsieur le ministre, dit Einstein, agacé, boissons fraîches et fans mis à part, on pourrait peut-être s'occuper à des bagatelles, rechercher de l'uranium, par exemple, travailler sur l'énergie solaire, combler notre déficit énergétique, soigner les maladies inhérentes à la vie souterraine. Bon, voilà, il y a déjà tout le système économique et politique qui est en train de se mettre en place. Donc il y a aussi, lorsque l'on parle de colonisation d'un autre milieu, que ce soit au fond de l'océan, et on le voit bien avec Peter Watts, puisqu'il s'agit bien d'une question économique d'abord, récupérer l'énergie des fumeurs noirs, ou pour aller dans l'espace, il y a ces questions-là qui se posent. Et j'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. Elle est très présente dans AquaBlue, de toute manière. De façon, AquaBlue, lorsqu'on n'est pas sur l'océan, on est dans un vaisseau spatial, donc le milieu isolé. Et si la Terre veut venir sur AquaBlue, c'est bien aussi pour des raisons d'espace et d'économie.
Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, chaque fois que l'être humain investit un espace qui n'est pas le sien, mais c'est essentiellement sur Terre pour l'instant, on commence à coloniser les déserts, enfin même on les a colonisés depuis longtemps, en partie, mais chaque fois que l'être humain étend un peu son espace vital, c'est au détriment des autres espèces. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a un écosystème en place que l'être humain va être amené à détruire ou en tout cas à modifier de façon considérable, et ce qui va entraîner la destruction de certaines espèces animales ou végétales. Et la thématique en termes de colonisation des océans est un peu la même. Que ça soit une colonisation de surface, comme on la voit sur AquaBlue, ou une colonisation en profondeur aussi, ne serait-ce que parce qu'effectivement l'être humain rejette beaucoup de déchets chaque fois qu'on consomme, en fait, on rejette beaucoup de déchets et ça entraîne une pollution aquatique, une pollution atmosphérique. Dans l'espace, c'est un peu différent. Je ne sais pas si on peut parler de pollution, mais en tout cas, il y a beaucoup de débris effectivement liés à la conquête spatiale qui sont dans l'espace actuellement et qui commencent à poser des problèmes en termes de sécurité. Puisque ces débris en fait tournent à 28 000 km/h à peu près, je crois. Et donc quand ils entrent en collision les uns avec les autres, ça, surtout quand ils entrent en collision avec un satellite, même je crois que ne serait-ce qu'une écaille de peinture en fait peut amener à la destruction d'un satellite quand ils sont amenés à se rencontrer, quoi.
Ah oui, je peux dire que la catastrophe que l'homme porte à la Terre. Au Congo, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'évidence. Non, je pense au tremblement de terre, je pense à la guerre, je pense à le volcan qui explose. Et dans la mer et dans l'espace, il y a un paradoxal silence. Non, et alors, le crime de l'humanité, ils sont bien cachés au fond de la mer, au fond de... Et alors, c'est... qu'il y a besoin de quelqu'un qu'il crie, qu'il dit fort. Alors, je pense à un petit récit que j'ai fait, et peut-être en solution, c'est l'héroïne, c'est une langouste, non, qui vit au fond de la mer. Elle arrive, elle est capturée par le pêcheur. Il arrive dans une famille qui l'avait mangée, et quand elle est suspendue sur le bouillon, il dit à le chef, bon appétit, mais je vous avère que je suis plein de mercure. Et alors, c'est ça peut-être une solution, que la langouste, ça commence à parler, à dire comme c'est l'oscillation. Si le mer commence à parler, il y a quelqu'un qui sait écouter le mer, mais ce silence est paradoxal et terrible.
Ça me permet de faire le parallèle avec... l'océan qui pourrait être une métaphore de l'inconscient. C'est ce que l'on voit. Bon, et puis peut-être, alors, vous avez aussi placé le bar sous la mer. c'est un de vos recueils. Et le bar chez vous, si j'ai bien compris, c'est l'endroit où l'on peut parler, échanger, communiquer, où c'est donc la libération de la parole, où les choses peuvent se dire sans contrainte et sans rien dissimuler. Dans Aqua Blue, il y a beaucoup de secrets aussi au fond de l'océan. On prend d'ailleurs un sous-marin parce qu'on sait qu'il y a des choses cachées et on va aussi l'explorer. Donc il y a beaucoup de secrets là. Et je vois également tout le côté noir de l'inconscient qui se manifeste dans le récit de Peter Watts, parce que les personnes qui vont devoir travailler en bas doivent être des personnes forcément un petit peu dérangées, qui préfèrent rester seules. On y met des repris de justice, on y met des psychopathes, on y met de toute manière des personnes qui n'ont pas une personnalité très, très stable, en tout cas pas comme on l'entend pour les gens normaux. Et on est vraiment dans l'inconscient, au fond de l'océan, avec ce genre de personnages. Et le fait même qu'ils soient transformés avec des coquilles à la place des yeux pour leur permettre de voir, il est dit à un moment dans le récit, je crois que j'ai retrouvé, enfin dans Behemoth par exemple, comment disent les sécheux déjà, les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais les fenêtres des âmes rifteuses, donc les gens de là-bas, les rifteurs, sont censés être dépolis. Ces yeux sans calotte, c'est pour les cadavres. Ces yeux-là ne se ferment pas. On ne peut pas fuir ce monde-là une fois qu'on y est. Et on le voit aussi, à un moment, il y a une métaphore avec les yeux dans Stefano Benni, dans Terra. Donc on est vraiment dans l'inconscient lorsque l'on va au fond de l'eau, lorsque l'on va loin dans l'espace.
Oui, c'est ça. Et enfin, dans l'inconscient. Oui, quelque part. Et ça me fait penser d'ailleurs...
C'est une métaphore de l'inconscient, oui, à tous les coups.
Et le fait d'envoyer des êtres humains comme ça, des repris de justice ou autres sous l'eau, ça me fait notamment penser à la façon dont on se débarrassait aussi il y a un siècle ou deux, il y a quelques siècles, de ce genre de personnes en les envoyant sur des îles lointaines, par exemple l'Australie, etc. Dans Aqua Blue aussi, on utilise un pénitencier orbital parce que voilà, c'est des lieux qui sont complètement isolés du reste de l'humanité, et le monde sous-marin en fait partie aussi. J'aurais juste rajouté par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a longtemps eu tendance à utiliser un peu les océans aussi comme une gigantesque poubelle. On parlait du cinquième continent tout à l'heure, on continue à le faire en y déversant une grande partie de nos déchets, notamment des déchets nucléaires. Il y a encore quelques années, voilà, on enfouissait les déchets nucléaires sous l'eau en se disant que voilà, les radiations allaient se disperser dans l'océan, et puis jusqu'à se devenir infime, et puis on se rend compte que les radiations en fait continuent à... les déchets continuent à irradier comme ça pendant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Et petit à petit, en fait, c'est le taux de radioactivité des océans qui commence à augmenter. Et donc c'est pour ça qu'Aqua Blue, en fait, pour les humains, une belle planète, parce qu'ils se retrouvent avec une poubelle vierge quelque part, qui vont pouvoir polluer plus tranquillement.
D'accord. Un dernier mot pour Peter Watts, parce que l'heure avance. Mon frère a commencé avec un peu de retard aussi. À propos de la métaphore du monde sous-marin et de l'inconscient, le fait qu'on y mette des personnalités plutôt perturbées au fond de l'eau.
I was not actually aware of that metaphor consciously, which doesn't mean that it didn't work on me. I actually had this vision of an eyeless kind of a mer creature hovering over these giant clams the size of boulders, and I found it kind of peaceful. I mean, they do find, oddly enough, and this was based on some work that had come out. It's since been disproven, but they do find when they get down there, because of various aspects of the way the pressure causes the neurons to fire, they develop kind of a weird subconscious rapport. It's like almost a literalization of this metaphor, where they can actually sense each other's presence. And it's not telepathy, but it's a kind of a weird subconscious sense of connection with each other that allows these people who are broken and twisted, and in some cases deliberately so that they will make better employees, actually find that the deep sea is a place which, despite the fact that it could kill you at any time, it becomes actually peaceful, and they don't want to leave. And this is the one thing that the people who sent them down were never expecting. The last thing they expected was that anybody would start to like it down there, and this actually kind of loses them their advantage and their edge. The fundamental theme of Starfish was that civilization is built on the backs of its outcasts. And that was kind of a metaphor, I think, for essentially the way we exploit the creators and the obsessives in our midst. But what you're saying, in hindsight, all ties together almost as though I had intended it to. But I didn't. It was just a subconscious thing.
Donc en fait, il n'avait pas conscience en fait de cette métaphore. Il est parti en fait d'une vision assez simple en fait de coquillage plus grand que réellement. Mais en fait, à y réfléchir, en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a d'ailleurs eu une théorie qui a exploité, que depuis ils se sont rendus compte que c'était faux, mais que la pression en fait pouvait affecter le fonctionnement des neurones et en fait entraîner le développement d'une espèce de sens, de sixième sens en fait, de connexion inconsciente entre les êtres. Et et ce qu'il exploite dans Starfish notamment, c'est cette idée en fait que le fond de la mer soit un milieu extrêmement hostile, en fait, qui peut effectivement vous tuer en un instant, mais qu'en même temps, ce soit un milieu extrêmement paisible. Et c'est ce qui se passe dans son récit, c'est-à-dire que l'idée, c'est de les envoyer en bas et qu'éventuellement, je veux dire, cette modification du haut milieu du fonctionnement et de la connexion entre les êtres puissent en faire de meilleurs employés. Ce à quoi ils ne s'attendent pas finalement, c'est que les gens qui sont au fond finissent par aimer ce lieu et ne veuillent pas remonter, ce qui est un peu une forme d'invention, enfin une forme d'inversion en fait, parce que ceux qui sont perdants au départ et qui sont envoyés dans un milieu très hostile finalement se retrouvent dans la meilleure situation et la situation la plus enviable de leur propre point de vue. Et le thème en fait de Starfish, pour lui le thème sous-jacent, c'est le fait que une civilisation en fait est toujours construite sur le dos de ses marginaux et de ceux qu'elle rejette. Et avec le recul, même s'il n'avait pas conscience en fait de cette métaphore, en fait, il pense que elle devait être là parce que ça marche extrêmement bien. En fait.
Bon, mais je crois que on nous attend et vous allez pouvoir retrouver les auteurs en dédicace. Merci de nous avoir suivis. Et puis je laisse la place au suivant.